Sega est une entreprise à la saga plus qu'intéressante. C'est une marque qui a rebondi, et plus d'une fois. Pour nous en parler, il nous fallait quelqu'un qui ait connu son âge d'or de la période console en tant qu'observateur attentif. Nous avons le plaisir de recevoir par satellite Douglas Alves, journaliste vidéoludique depuis 1991, notamment dans le mythique magazine Tilt, historien et conseiller pour l'association MO5.com, enseignant en culture et histoire du jeu vidéo et, selon son CV, parle couramment l'assembleur Motorola 68000. Je sens qu'on va bien s'entendre. Douglas, quel fut ton premier contact avec un jeu Sega?
Alors, je pense que l'un des premiers, si ce n'est le premier, c'est Pengo. Pengo, qui est un petit pingouin qui se déplace dans un labyrinthe, qui est un des fils spirituels de Pac-Man, hein, finalement, quand on analyse un peu le game design du jeu. Je crois que c'est le premier jeu Sega que j'ai vu. Et je pense que ça a été pratiquement tout de suite après, je pense que ça a été Shinobi.
Ah oui, bah là, c'est entre pousser des blocs de glace et balancer les shurikens, il y a quand même une petite différence. Dans l'émission CPU, nous faisons une série sur les entreprises japonaises. Donc, il fallait parler de Sega. Et pourtant, Sega est une entreprise américaine. De ce que j'ai compris, née des suites de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, alors c'est très très compliqué l'histoire de Sega. C'est fait de fusions, de rachats, et il n'y en a pas eu qu'un ou deux, hein, y en a eu beaucoup plus que ça. Alors déjà, à la base, il y a Standard Games, qui est une entreprise américaine, qui va être impactée par la Seconde Guerre mondiale, par le fait aussi qu'il va y avoir un décret de loi contre les machines à sous, et que tout ce qui est machine de jeu électromécanique va être inclus dedans, et que donc Standard Games va devoir se délocaliser. L'idée, ça va être de prendre les machines produites aux USA et de les revendre sur les bases américaines. Ils vont changer de nom, ils vont s'appeler Service Games, le grand patron va revendre sa société, une partie va être rachetée par d'autres Américains, fusionnée avec une société japonaise. Elle va après se refusionner avec une autre société d'origine américaine, mais qui est présente au Japon et qui était l'un des concurrents de Service Game. Et c'est une histoire, mais extrêmement compliquée.
De ce que j'ai un petit peu vu justement sur Sega, elle a travaillé donc sur la location de machines à sous. Elle n'en fabriquait pas, hein, elle en distribuait, elle en assurait la maintenance. Et donc, elle a eu dans les années 60 une réputation plus ou moins sulfureuse, avec évidemment des frictions un petit peu là où elle s'était installée.
Vu que dans les années 60, c'était globalement interdit aux États-Unis, hein, dans toute l'histoire du jeu, hein, dans l'humanité, il y a toujours eu cette opposition en fait entre le jeu en tant que jeu d'argent et le jeu en tant qu'activité ludique. Et aux États-Unis, on a connu un peu une prohibition en fait du jeu électromécanique et du jeu automatique, qui était un peu sous la coupe en fait des mafias, qui s'en servait en fait pour blanchir de l'argent. Donc, c'est redevenu un loisir un peu plus noble vers les années 70. Mais entre-temps, l'entité qui va devenir Sega, par la suite, va vendre au Japon. Au Japon, en tant qu'Américain, c'était assez dur de s'implanter au Japon. Et effectivement, comme c'est une compagnie américaine qui continuait à vendre, notamment dans les bases américaines, hors du territoire américain, des machines à sous, ils étaient un peu entre deux. Ils pouvaient pas être déclarés illégaux, mais ils faisaient quand même un business qui était interdit sur le territoire américain, mais tout en le délocalisant ailleurs. Donc c'était un peu compliqué, parce que même au Japon, ils ont eu pas mal de alors au Japon, il y avait pas ces problèmes de légaux comme en certains pays en Europe ou aux États-Unis, mais en tant que Américains, ils étaient quand même assez mal vus et ils avaient beaucoup de mal à s'implanter dans certains cas. Voilà.
Contrairement à Nintendo, dont on avait dit qu'ils avaient énormément de jouets en plastique, ils étaient très présents, je vais dire, dans la vente en particulier de jouets, Sega, ils arrivent avec la Master System. Donc la première incursion en console de Sega, qui en fait est un dérivé d'un ordinateur familial qu'ils avaient fait. Pourquoi ils ont pivoté de l'ordi familial vers la console? Est-ce que ça n'avait finalement aucun avenir selon Sega? C'est l'absence finalement d'un secteur qui soit soutenu par l'éducation de ce côté-là?
Alors c'est assez dur d'avoir des informations de l'intérieur, mais quand on voit ce qui s'est passé chez Sega, on comprend qu'il y a une petite partie de Sega qui voulait se diversifier. Il faut savoir que globalement chez Sega, on faisait de l'arcade, et que c'était vraiment les revenus principaux venaient de l'arcade. C'est une entreprise qui a un ADN très arcade. Ils se sont dit qu'avec la technologie qu'ils maîtrisaient, ils pourraient sortir un ordinateur parce qu'il y a eu une énorme poussée en fait de la micro-informatique au Japon. À l'époque où en fait Commodore va partir du Japon et laisser la place libre en fait aux Japonais, les Japonais vont implémenter la gestion du japonais dans les ordinateurs japonais. Ça, c'est la grande révolution.
C'est-à-dire ah oui, c'est un boulot de fou.
Oui. C'est, en fait, il y a une première partie de l'informatique au Japon, c'est l'Apple II, un peu de Commodore PET, c'est de l'import, c'est extrêmement cher, ça gère pas le japonais. Après, il y a des machines assez bas de gamme qui sortent, par exemple comme le PC 8001 ou le PC 6001, qui gèrent que le katakana, c'est-à-dire qu'on peut pas écrire pleinement le japonais avec. Et la deuxième phase de l'informatique japonaise, là où ils se sont sentis pousser des ailes, c'est là où ils se sont dit « on n'a plus d'étrangers sur notre territoire ». Et nous, on va pouvoir sortir des machines qui font du 640x200 pour pouvoir afficher le japonais. Et là, à partir de ce moment-là, l'informatique au Japon a explosé. C'est-à-dire que les Japonais qui n'avaient pas connu la machine à écrire vont avoir une machine capable d'afficher sur un écran du japonais et de pouvoir surtout l'imprimer. Mmh. Et là, on va avoir une centaine de marques qui vont faire de la micro-informatique au Japon, qui vont se lancer là-dedans. Ça a été une explosion, mais incroyable.
Sauf que voilà, même si c'est un marché de 120 millions d'habitants, c'était un petit peu limité pour tout le monde, donc Sega a pivoté.
Oui. Ce qui est dingue, c'est que les gens achetaient un ordinateur, la plupart du temps, pour l'utiliser de façon monotâche. C'était juste pour écrire et imprimer. Le reste, ils s'en foutaient un peu. Sega s'est dit, on va tenter de sortir une... Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur de Sega, il y avait des gens qui étaient plutôt du côté informatique. C'est-à-dire, ils se disaient, on va faire de l'arcade, on va tenter quelque chose un peu du côté de l'informatique parce qu'on a les compétences. Le côté console, il est arrivé un peu parce que il n'y avait pas de marché console au Japon. Il n'y avait que Epoch avec la cassette Vision. Il y avait de l'import par Bandai avec l'Intellivision, la Vectrex, mais ça restait assez, on va dire, pas underground, mais assez minoritaire. Et contrairement aux États-Unis, on n'avait pas de vrai marché console. Et Nintendo lorgnait sur ça. Sega avait les capacités de sortir la SG-1000, donc leur première console, bien avant la Famicom de Nintendo. Mais c'est seulement quand ils ont vu qu'en fait, ça commençait à bouger aussi au niveau console, que Nintendo commençait à communiquer, ils annonçaient la sortie de leur console et ça, qu'ils se sont dit, ah ben, on va faire pareil. Vu qu'on a une architecture de prête, boum, on sort une console. Mais à l'intérieur de Sega, ils n'y croyaient pas vraiment. La grosse différence entre Sega et Nintendo, c'est que Nintendo, c'était leur produit phare. C'était l'avenir de Nintendo. Chez Sega, c'était un petit produit qui sortait, comme ça, en plus de leur activité principale, pour voir si ça prenait. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de Sega, quand on disait à un programmeur, tu vas bosser sur un jeu SG-1000, il considérait ça comme une punition. Et chez Sega, quand tu travaillais sur une machine d'arcade, t'étais quelqu'un de bien. Quand tu travaillais sur la SC3000 ou la SG1000, c'est que tu étais puni ou que tu venais de rentrer dans la société. Donc voilà, et ça, il faut le comprendre en fait, pour comprendre comment en fait ça évolue différemment chez Nintendo et chez Sega.
Est-ce que cela explique aussi pourquoi Nintendo, avec sa NES, a pris le pas sur Sega ? C'est aussi un manque d'investissement publicitaire, commercial, marketing et de présence sur le terrain.
Bien sûr, puisque en fait, les budgets qui étaient dégagés pour la SG-1000 étaient ridicules, puisque c'était un produit optionnel, en fait, pour Sega. Ils y croyaient à moitié. Pour eux, c'est l'arcade, où ils faisaient des efforts incroyables. Sega, quand on voit l'évolution entre 83 et 85, c'est absolument dingue ce qui se passe chez Sega. Et effectivement, ils ne peuvent pas mener la guerre sur les deux fronts. A contrario, Nintendo va abandonner l'arcade. Va de moins en moins mettre de l'argent dedans.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Douglas Alves, historien et conseiller pour l'association MO5, entre autres, pour parler de la saga Sega. Sega, c'est la Mega Drive, la console reine qui a cartonné dans un contexte ultra concurrentiel. Qu'est-ce qui a joué ? Ses performances techniques ou ses publicités très agressives ?
Oh là, c'est un échec ou un succès, c'est toujours multifactoriel. En faisant de la simplification, on reste assez loin de la vérité. Ça a été surtout en fait véritablement la surprise qui a, je pense, atteint Nintendo et même le secteur console. C'est-à-dire que Sega a pu très rapidement, avec un délai très très court, développer une Mega Drive à partir de leur hard d'arcade. Voilà, en simplifiant un peu la gamme System 16 qu'ils avaient en arcade. Et donc ils ont pu en 88, encouragés aussi par la sortie de la PC Engine, se dire qu'ils étaient complètement capables de sortir une machine aussi performante et beaucoup plus performante que la Famicom. La Famicom nom de la NES
Au Japon.
donc au Japon, voilà. Et en fait ils ont pris de surprise vraiment Nintendo, qui était en gros en train de dire bon bah les 8 bits ça va encore continuer les 3-4 ans, ça va, on vend très très bien, tant qu'on vend tout va bien. Et Sega en fait les a obligés à se réveiller un peu, à se dire wow, on change de vitesse. Pour les Japonais, Sega est quand même une compagnie d'arcade. Donc les Japonais vont pas vraiment réagir de façon positive à la Mega Drive. Ça va être un peu une console un peu de gros spécialistes, hein, une niche un peu underground. Alors qu'aux États-Unis, les 8 bits Sega ont aussi une histoire assez singulière. Parce que il y a eu la SG-1000 en deux modèles, puis après il y a eu la Mark III, qui a donné en fait la Master System. La Master System et l'image a bien marché à l'époque en Amérique du Sud, en Europe c'était pas mal non plus, mais aux États-Unis ils étaient distribués par une compagnie de jouets qui s'appelait Tonka et qui a fait n'importe quoi et qui a très mal vendu la Master System, qui ne faisait qu'environ 8% du marché américain. Globalement, je pense que Nintendo, de toute façon, se méfiait pas trop de Sega sur le coup. Et ils ont commencé vraiment à regarder vers Sega quand la console est sortie, la Mega Drive, au Japon. Ils ont fait une conférence de presse où ils ont invité des journalistes. Et cette conférence de presse est incroyable parce qu'ils ne montrent rien aux journalistes. Ils ne font que dire, nous sommes en train de préparer une nouvelle console. Juste pour contrer Sega, et j'ai trouvé ça. Alors qu'ils s'étaient pas trop inquiétés de la PC Engine qui restait une 8 bits, bah là en fait ils ont peur, ils ont un peu peur, et ça se voit. Et Sega va vraiment réussir leur sortie en Occident avec communication qui est très novatrice, mais qui reprend un peu la fin de la Master System dans certains territoires comme en France, où en fait avoir une Master System c'est jouer au même jeu de l'arcade. Donc être un ado ou un adulte qui peut rentrer dans ces salles-là, donc il y a un côté un peu voyou, hein. Il y a le parfum de l'interdit chez Sega. Et alors que Nintendo c'est très gamin en fait comme image. Et ils vont continuer à appuyer sur ça. Et la Mega Drive en plus, technologiquement, bah c'est sûr que quand quelqu'un voit un jeu NES et voit un jeu Mega Drive, la différence elle est flagrante. Donc Sega a vraiment bénéficié en fait de la rapidité en fait du coup qu'ils vont porter à Nintendo et surtout qu'ils ont des jeux qui sont basés plus ou moins sur la même technologie et qui donc sont convertibles assez facilement. Et ne pas oublier, hein, ne pas oublier que partout dans le monde, dans les années 80, l'arcade c'est la vitrine technologique du jeu vidéo. C'est-à-dire que même les gens qui aiment pas trop les jeux d'action, ils vont voir en arcade, ils vont voir, ah ouais, c'est quand même techniquement c'est quand même bien l'arcade, hein, ils sont forts. Hein. Et ça, le fait d'avoir cette image arcade et un peu plus adulte avec un marketing plus agressif, ça a beaucoup aidé la Mega Drive, hein, au début. Et puis les éditeurs tiers sont arrivés aussi parce que Sega proposait des royalties beaucoup plus minimes que chez Nintendo. Il fallait moins payer Sega que Nintendo quand on voulait sortir un jeu. Il n'y avait pas de limitation. On pouvait sortir autant de jeux qu'on voulait alors que chez Nintendo, on ne pouvait pas. Donc il y a pas mal de facteurs qui ont fait que. Moi, je dirais aussi, en parlant de 68 000 aussi, je dirais que beaucoup de programmeurs aimaient ce processeur, que ça soit les gens au Japon qui travaillaient dans l'arcade ou les programmeurs en Occident qui étaient sur Amiga ou sur Atari ST. Et ça a facilité beaucoup aussi l'approche des
C'est vrai
spectres.
que par rapport à un 6502 ou un Zilog 80, c'est quand même largement plus simple à programmer.
Exactement. Et puis je vais vous raconter juste une petite histoire, une petite anecdote personnelle où à l'époque où je commençais à développer sur Atari ST et que je résidais chez un ami pour qu'on puisse travailler ensemble, on a eu la visite d'un groupe de demo makers suédois. Donc ils travaillaient sur Atari ST aussi à l'époque. Ils m'ont vu avec la Mega Drive. Et puis les jours suivants, ils ont passé toute la journée à fabriquer un kit de développement pour la Mega Drive à partir de l'Atari ST, en sniffant le port cartouche de la Mega Drive. Comme il y avait un 68000 à l'intérieur, ils étaient intéressés. Et ça a beaucoup séduit les programmeurs, effectivement. Hein, se dire, il y a la Mega Drive, elle est sexy, il y a un 68000 dedans. Ça a beaucoup joué aussi. Mais c'est ça, encore une fois, c'est une histoire qui est un peu underground, parce que quand on parle du succès de la Mega Drive, on va très peu parler, en fait, de technique, de est-ce que ça intéresse les développeurs ou pas. En prenant l'histoire du jeu vidéo un peu plus récente, c'est comme si on comparait la Wii U à la Switch. La Wii U, il faut mettre ses meilleurs programmeurs dessus. Les outils modernes ne peuvent pas tourner dessus, alors que la Switch, c'est tout le contraire. Unreal marche dessus, Unity marche dessus.
Suffit de prendre le kit Android et ça passe, quoi. Quasiment.
Voilà. Donc, ça, on le néglige souvent dans la presse de jeux vidéo et souvent dans les analyses des succès. On néglige en fait ce côté-là. Sega a bien joué sur plein de plans. Hein. C'est vrai que pour faire peur à Nintendo qui avait 80% du marché, voilà, c'est qu'ils ont vraiment bien joué sur la Mega Drive.
Sega avait-il développé des mascottes avant Sonic the Hedgehog?
Le Japon, en tant que culture, a une culture propice aux mascottes. Il faudrait en parler un peu plus, mais c'est parce que voilà, la culture animiste à la base, le fait de représenter les esprits par un personnage anthropomorphe, enfin voilà, les Japonais, ils font des mascottes pour tout et n'importe quoi. D'habitude, on présente la première mascotte de Sega comme étant Alex Kidd. Alors, l'histoire d'Alex Kidd est vraiment intéressante parce qu'Alex Kidd, ça devait être un jeu sous licence. Et c'était en fait Sega qui essayait de négocier pour ses consoles 8 bits, en fait, une licence Dragon Ball. À l'époque où Dragon Ball arrivait voilà, en 84, 83, 84, où ce manga avait eu une énorme critique positive, tout le monde adorait, et eux, ils voulaient récupérer la licence. Et finalement, ouais, ça s'est pas fait.
Akira Toriyama, avec Dr. Slump à l'époque, cartonnait déjà énormément,
ouais,
donc ça a aidé.
Ouais. Oui, il y avait la Super Cassette Vision qui avait, moi je pense que c'est ça, alors j'en ai pas la confirmation, mais je pense que c'était Époque et la Super Cassette Vision qui avaient réussi à avoir la licence Dragon Ball, et donc ces gars, ils sont retrouvés un peu le bec dans l'eau. Ils se sont dit, bah ouais, mais comme on a commencé à travailler dessus, inventons notre propre personnage basé de la légende du roi singe. Et ça a donné Alex Kidd. Est-ce que c'était considéré comme une vraie mascotte? Je pense qu'ils l'ont sorti, le jeu, en se disant, bon, bah voilà, on va tester s'il marche ou pas. Autant Sonic a été créé dès le départ avec une volonté de faire une mascotte, autant Alex Kidd, c'est un peu le hasard, l'itération sur le moment. Les Japonais aimant les petits personnages mignons, les mascottes, parmi toute la production de jeux Sega, c'était un des personnages peut-être qui ressemblait le plus à ce que Sega voulait donner comme image. Disons que ça a été une mascotte involontaire, mais quand même, on peut dire que ça a été quand même une représentation de Sega assez sympa.
Ce qui est intéressant avec Sonic the Hedgehog, ils auraient pu le sortir exclusivement sur la Mega Drive. Et étonnamment, il existe une adaptation Master System qui est plutôt honnête, point de vue performance pour cette console.
Qui est très très honnête, oui.
Contrairement à pas mal de constructeurs de consoles de l'époque, ils essaient de faire vivre en parallèle plusieurs générations. C'est impressionnant.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le marché 8 bits, surtout en Amérique du Sud, est très important et Sega ne peut pas le négliger. D'ailleurs, il y a des jeux qui ont été produits au Japon, qui ne sont sortis qu'en Occident. Et donc, on a des choses assez incroyables avec du code destiné à des machines japonaises dans des jeux destinés à l'Occident et qui ne sont pas sortis au Japon. Donc, après, il faut le recâbler sur une machine japonaise en faisant un adaptateur pour qu'il revienne à la maison. Je pense qu'ils vendaient vraiment beaucoup en Amérique du Sud et en Europe, c'était pas mal. En fait, ils ont été pragmatiques. Ils ont été pragmatiques. Ils n'ont pas du tout été à l'époque Saturn, par exemple. Ben là, ils étaient pragmatiques. Ils disaient, on a un marché, on a une mascotte. Ah non, mais il faut que ça sorte sur les machines 8 bits. Parce que ça va créer de la frustration. Imaginez des millions de joueurs qui n'ont que des 8 bits, par exemple au Brésil, qui n'ont que la Master System. Il y a le jeu de la mascotte de Sega, de leur marque préférée, qui sort, mais sur une console qu'ils n'auront pas avant 3-4 ans. Donc, ça aurait été idiot pour Sega de pas le faire.
De l'autre côté de la puissance, la Mega Drive a été étendue avec le système Sega 32X, puis le système Mega CD qui permettait donc d'ajouter un lecteur CD-ROM sur la console.
Oui.
Deux extensions qui elles-mêmes étaient additionnables entre elles. Bel exploit, inutile.
Alors, alors Sega, vous voyez, Sega, ils ont comme mascotte Sonic, et Sonic, c'est un personnage qui court très vite. Et c'était tout à fait Sega à l'époque. C'est-à-dire, la moindre innovation technologique, allez, on saute dessus, on sort un produit. Là, ils ont vraiment mal joué. Ils se sont dit, on a plein d'argent, on peut aller dans l'innovation technologique, on y va à fond, mais sans la réalité du marché. Le prix des périphériques. Le prix des périphériques.
Et puis jusqu'à la multiprise, parce que quand même, il y avait donc la Mega Drive. On rajoute le Sega 32X sur le port cartouche, le Mega CD sur le côté, et on a trois transfos à brancher quelque part.
On a trois transfos, on a les câbles vidéo qu'il faut bypasser à l'intérieur de l'extension. Enfin voilà, c'est quelque chose de complètement dingue. D'ailleurs, j'avais même entendu parler qu'il y avait eu des rumeurs de projets identiques sur Famicom, et que sur Famicom, Nintendo avait dit non, mais on va pas foutre le bordel avec les câbles, les gens sur console, ils vont devenir fous. Et ça, c'est intéressant parce que ils se rendaient pas compte que le public console, c'est pas le public PC. C'est pas un public qui va bidouiller en rachetant des périphériques pour augmenter la puissance de sa machine à des prix incroyables. C'est un public qui veut quelque chose de simple.
Pour donner l'idée à nos auditeurs vis-à-vis de l'époque, à l'époque, la machine haut de gamme sur PC, c'était le 486. Les gens étaient habitués à bidouiller le DOS, à rajouter de la RAM, à échanger les disques durs qui étaient limités à 32 mégas. Contrairement aux plateformes Atari Amiga ou même Mac, avoir des câbles qui partent d'une extension pour se mettre à la sortie vidéo, pour se rajouter derrière, c'était pas complètement incongru. Et d'un autre côté, ben, la 32X, elle était vendue. Alors j'ai fait ma recherche et j'ai vu que c'était vendu au même prix que la Mega Drive nue à ce stade.
Ah oui, mais c'était.
Pourquoi ils n'ont pas fait une console à part ?
La sortie, c'était beaucoup trop cher. Et puis surtout, il n'y avait aucun soft qui séduisait les joueurs, hein, la filiale japonaise n'était pas d'accord avec la filiale américaine. C'était très dur d'avoir visiblement de la communication claire et précise et une stratégie conjointe pour les deux. Donc c'était un peu, on était dans un Sega un peu qui était bicéphale, mais on peut le retrouver aussi dans une moindre mesure entre Nintendo Japon et Nintendo US. Hein, ça, c'est le problème de on n'a pas lu les docs japonaises que vous nous avez envoyés, donc on a écrit tout nous-mêmes, on a tout inventé de notre côté. Voilà, ok, d'accord. Souvent, la communication était compliquée. Ça a conduit à pas mal de catastrophes. Hein. Mais c'est vrai que Sega, le Mega CD est sorti assez tôt au Japon, mais bon, ils avaient quand même 3 ans de retard par rapport à la PC Engine. Ils ont essayé de sortir quelque chose qui améliore les caractéristiques de la Mega Drive pour la mettre au niveau des effets, tout du moins de la Super Famicom, mais c'était beaucoup trop cher. Sega aurait dû annuler la 32X, le Mega CD, et se concentrer sur une meilleure Saturn peut-être. Voilà.
À ce moment-là, Sega, à côté de ses consoles grand public, a continué à développer un solide secteur dans les bornes d'arcade avec des bornes de luxe.
Tout à fait.
Les jeux de course comme OutRun ou les jeux de combat comme Virtua Fighter qui sont en 3D polygonal. Quels sont leurs concurrents à l'époque ? Est-ce qu'ils sont un peu les seuls à être à la fois sur console et arcade ?
À la fois sur console et sur arcade. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que fin des années 80, il y a plusieurs compagnies qui ont eu la même idée que Sega. On peut citer Taito, on peut citer Konami, on peut citer Namco. Il y a plein d'histoires qui traînent et de rumeurs qui traînent à cette époque-là parce que, comme Sega, ils avaient de la technologie arcade. Ils se sont dit peut-être qu'il faudrait s'émanciper de Nintendo et sortir notre propre console. Finalement, ils l'ont pas fait parce que Sega a dégainé en premier. Hein. Ils ont été très très rapides. Sega, l'image de Sega, c'était l'arcade. Hein. Ils étaient l'une des premières boîtes d'arcade au monde. Hein. Et d'ailleurs, leur principal rival, qui à la fois, moi je vois le rival, c'est Namco à l'époque. Hein. Et ces deux compagnies en fait, qui en arcade. Vont progresser technologiquement très rapidement. Ils vont être à l'avant-garde de la technologie, notamment avec la 3D. Alors que des boîtes comme Konami ou Taito, eux, ils vont investir beaucoup moins dans la technologie, ils vont essayer juste de faire des bons jeux et de continuer leur business. Et c'est vrai que ces gars avaient une image d'innovateur en arcade, hein, avec les grosses machines de luxe, mais aussi le fait des jeux de Yu Suzuki qui utilisaient de la 2D, mais avec des calculs dans l'espace en 3D. Donc comme Space Harrier, Afterburner, Outrun et tout ça. Et au milieu des années 80, par exemple, Space Harrier en 85, il est élu meilleur jeu de l'arcade au Japon. Il y a le duel Namco-Sega, en fait, qu'on oublie souvent, hein, parce qu'on parle de Sega Nintendo, qui est passionnant à suivre à l'époque, où on voit des jeux 3D en 93 qui n'ont pas de texture, et des jeux en 3D en 94 qui arrivent avec des textures. L'évolution est tellement rapide que le public, il regarde les jeux tous les 6 mois, ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le côté console chez Sega, le marché console est un peu optionnel. Mais ça, c'est aussi vraiment des employés, parce que au niveau des directeurs, ils vont très vite comprendre qu'avec le succès de la Mega Drive, qui est un énorme marché console et que bah, ça rapporte finalement peut-être plus que l'arcade.
Move DS0D0 RTS, hein, si on revient à point de vue arcade sur la console, à côté de l'extension 32 bits de la Mega Drive, donc sort quelques mois plus tard la Sega Saturn, console purement 32 bits. Elle va être un échec cuisant. Est-ce que c'est un problème de catalogue, d'une course à la puissance mal maîtrisée, d'avoir à gérer un double catalogue incompréhensible avec la 32X sortie juste avant?
Alors, je pense qu'ils se sont rendus très vite compte que la 32X, c'était la catastrophe. Donc, en même temps, la 32X, on a l'impression que c'est une Sega Saturn sans les processeurs graphiques. Voilà, c'est une version light de la Saturn. Donc, voilà, on voit que Virtua Fighter, par exemple, sort en 32X et sort en Saturn en même temps. C'est vrai que la Saturn n'a eu de succès qu'au Japon.
Ah oui, parce que ça a été un échec en Europe, mais elle a quand même cartonné là-bas.
D'ailleurs, c'est la première console qui cartonne au Japon et certainement celle qui a le plus marché. C'est une console qui était partie sur une base 2D. Alors ça, c'est vraiment un problème technologique aussi à la base. C'est que Sega n'étant pas, disons, une boîte qui faisait ses propres processeurs. Et sur le marché de l'arcade, ils utilisaient des processeurs américains qui venaient du domaine de la simulation aéronautique et militaire. Ça coûtait extrêmement cher. Et donc, pour eux, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas mettre ces processeurs-là dans une console. Donc, la console aurait eu un prix incroyable. Et pour eux, quand ils ont commencé à travailler sur la Saturn, ils se sont dit, eh ben, il ne va pas y avoir de processeur 3D là, disponible dans les 2 ans à venir. Donc, la 3D, on va essayer de faire quelque chose qui simule de la 3D avec des sprites, des blocs dans l'espace, donc des quadrilatères, donc avec une technologie qui est très exclusive pour faire de la 3D, et ils n'ont pas vu Sony arriver. Et c'est d'autant plus ironique que Sony leur avait proposé un partenariat pour faire une console.
Tiens, ça me rappelle quelque chose avec Nintendo, avec Hudson.
C'est incroyable parce que Sony voulait faire une machine avec Nintendo, mais ça marche pas. Ils vont voir Sega leur dit non, on veut pas. Il y a beaucoup de choses qui se sont jouées au début des années 90. C'est quand même incroyable que ça soit au niveau des alliances, au niveau technologique. Et Sega s'est retrouvé bon avec une machine qui est très bonne, mais qui est un peu en fait le défaut de certaines cartes d'arcade Sega. Alors je m'explique. Le podcast va durer longtemps, je pense.
On aura la version longue sur le site de l'émission, sur la page de l'émission, cpu.pm/0139. Voilà, comme ça, je suis prêt.
Alors, au milieu des années 80, Sega va monter à la fois dans ses techniques de production et va développer pour chaque, on va dire, entre guillemets, problème de développement dans ses jeux d'arcade, des puces spécialisées. Des puces qui vont gérer des plans 2D, des sprites, des effets. On parle du super scaler et de. Donc, ils vont prendre cette habitude-là de quand ils ont besoin d'un effet dans un jeu, bah, au lieu que les programmeurs passent des mois à optimiser une routine, bah, ils appellent leurs ingénieurs et puis c'est fait. Voilà. Et en fait, la Saturn, elle a ce défaut-là. Elle a une dizaine de puces pour faire plein de choses différentes. Mais rien n'est prévu pour que tout marche en synchronisation, en harmonie. Effectivement, c'est très compliqué de développer dessus si on a envie de. Alors, le coup d'avoir rajouté un deuxième CPU un peu à la fin parce qu'ils avaient peur de Sony, par exemple, alors que le CPU n'était pas totalement prévu pour ça et qu'en plus, pour la mémoire cache, ils sont obligés de se partager en fait entre les accès qui peuvent pas être simultanés sur la mémoire. Enfin, c'est vraiment très très compliqué. Et il a fallu attendre la deuxième version du kit de développement de la Saturn pour pouvoir commencer un peu à augmenter la puissance. C'est-à-dire que les premiers jeux Saturn, ils utilisent en fait finalement qu'un CPU sur les deux. Alors qu'à côté, la PlayStation, on va avoir une architecture très très simple, avec trois puces.
Oui, mais d'un autre côté, donc sur la programmation de la Sega Saturn, et du coup que toutes les puces ne soient pas utilisées, sauf si on le faisait en assembleur, les multiples copos graphiques, pas avoir de bibliothèque ni de compilateur C pendant les trois premières années, en soi,
ah oui.
On peut faire exactement la même remarque sur toutes les consoles des 15 années suivantes, PS3 incluse, et même la Wii U d'ailleurs.
Dans une moindre mesure, c'est plus compliqué qu'une Saturn. Je pense qu'effectivement, il y a la PS3 qui est une console qui est compliquée. La PS2 est compliquée aussi. Normal, hein, c'est du Ken Kutaragi. Mais compliqué, dans l'exploitation graphique. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup de puissance, mais on donne pas d'effets câblés et pas de librairie. Et on laisse tout faire au programmeur. Mais on reste sur la même machine. C'est-à-dire qu'on... Effectivement, il y a les SPU, les unités vectorielles qui sont compliquées en fait à appréhender, qui sont pour des machines comme la PS2, la PS3, des choses qui sont spécifiques. On peut totalement à partir de la PlayStation en fait développer un jeu en C. Il y a trois puces et donc c'est quand même beaucoup plus simple. Je ne suis pas en train de dire que l'échec de la Saturn, c'est juste en fait ses problèmes de développement. C'est aussi le fait d'avoir sorti la 32X et le Mega CD qui sont des échecs. Et qui en fait ont vraiment fait du mal à l'image de Sega et à l'image que globalement les joueurs se font de Sega. En plus, la Sony a été très très sexy avec sa machine. Trip Hawkins l'explique quand il parle de l'échec de la 3DO. L'image de Sony était tellement sexy que c'était un peu irrationnel, qu'il y avait rien de pragmatique. On peut effectivement voir des jeux 3DO qui sont très beaux au niveau des jeu PlayStation 1, et pourtant l'image de Sony, le fait qu'il y ait un grand constructeur IFI vidéo qui arrive, la communication de Sony aussi, qui arrive et qui donne un côté adulte aux jeux vidéo, ça a beaucoup joué contre Sega aussi.
Et puis par rapport à la 3DO, puisqu'on parlait de la 3DO, il y avait aussi le coût à la fois de la console et des jeux, quoi. On était quasiment au niveau des Neo Geo, quoi.
Le business plan n'était pas vraiment au point.
Mais ça, c'est une autre histoire.
Ça, c'est une autre histoire, effectivement. Alors moi j'ai eu l'impression quand j'ai vécu ça à l'époque qu'en fait Sony avait utilisé un peu de la même stratégie que Sega avait utilisé pour contrer Nintendo à l'époque de la Mega Drive contre Sega eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est assez incroyable. Ça faisait un peu mal au cœur de voir que Sega ne réagissait plus comme le Sega d'antan et que alors Sony ils en profitaient mais de façon incroyable. C'est vrai que ça a été dur pour Sega. Moi je pense que en plus beaucoup de jeunes adultes ont été séduits par le côté qu'a utilisé Sony à mettre la 3D en avant, et que Sega en fait ne mettait pas la 3D en avant forcément sur sa console. C'était compliqué. Et puis on avait Sega et Nintendo, ils ont eu une traversée du désert aussi, hein, Nintendo avec la N64, ça a pas marché autant qu'ils ne l'auraient voulu, parce qu'il y a aussi le côté mascotte, le côté enfantin, le côté 2D. Cette image en fait qui collait encore à Sega et à Nintendo, alors que Sony arrivait avec une image complètement vierge et moderne. Donc ça les a beaucoup aidés.
Mais si la Sega Saturn a si bien cartonné au Japon, je suppose qu'il doit avoir un catalogue de jeux énorme. Je pense à tous les jeux, aussi bien de Mahjong et jeux de séduction et tout ça. Ça doit grouiller dans le fin fond de catalogue, vraiment de curiosité.
Ah bah au Japon, moi je le vois comme ça. Hein, c'est ma vision. C'est qu'en fait dans la Saturn, je retrouve pas mal en fait le catalogue de la PC Engine. Comme il n'y a pas eu de vrai successeur à la PC Engine, en fait, beaucoup d'éditeurs de la PC Engine et de studios sont allés sur la Saturn. La Saturn a un catalogue très japonais au Japon, avec des RPG en 2D, des jeux d'aventure, des licences qui marchent extrêmement fort au Japon. Sega, c'est aussi très rapproché de l'industrie de l'animation au Japon à cette époque-là. On voit des grands succès du manga qui sortent sur Saturn. Donc, ils avaient vraiment une ligne éditoriale pour le Japon qui était parfaite.
Alors Douglas, est-ce que tu veux dire que c'était moins honteux que l'adaptation de Sonic en dessin animé?
Ah oui, oui, car, oui, pas du tout. Oui. Bon, les adaptations américaines de Sonic sont un peu bizarres.
Donc là-dessus, c'est vrai que les RPG, c'est purement japonais. La Saturn elle-même, est-ce qu'elle a tenté une incursion sur le jeu à plusieurs ou ce genre de choses?
Bomberman a 10 joueurs, hein, donc vous pouvez rajouter un lecteur de disquette, un clavier, un modem à la Saturn, mais il n'y avait pas vraiment de jeu online aussi massif qu'aujourd'hui. Ça a été des expériences. Ce qui est incroyable, c'est de voir le nombre de jeux qui sont exceptionnels sortis au Japon et qui n'ont pas bénéficié en fait d'une localisation en France, enfin en Occident, excusez-moi, d'être ethnocentrés sur la France. C'est voilà. Quand on voit des hits comme Grandia ou comme Radiant Silvergun, voilà, dans les RPG, dans les shmup, et il n'y a aucune adaptation américaine de ces deux jeux-là, on se dit mais qu'est-ce qu'ils faisaient chez Sega?
J'explique rapidement. Hein. Shmup, c'est un jeu de tir avec console. Mais avec des milliards de boulettes,
avec des vaisseaux, voilà, c'est tous les descendants de Space Invaders en gros. Et c'est vrai que Sega en fait a très vite voulu arrêter en fait la Saturn en Occident pour se lancer sur la Dreamcast. Et on a une politique éditoriale où moi je pense qu'il y avait des jeux à traduire en priorité. Et je pense qu'ils se sont mal débrouillés en fait à choisir les jeux aussi. C'est assez incroyable parce qu'à chaque erreur, en fait, on en retire une leçon. Ils ont compris, Sega en interne. Alors ça, c'est peut-être l'habitude des fameux plans en 5 ans des Japonais, dont les Japonais sont friands, c'est qu'ils ont compris dans la période Saturne...
Le plan quinquennal n'est pas que français ni soviétique.
Non, c'est aussi japonais. Et en gros, à cette époque-là, avec l'échec de la Saturne, ils ont compris que certains jeux, quand le jeu se révèle de qualité, il faut commencer à travailler sur la localisation dès le début. Et je sais pas si les auditeurs vont s'en souvenir, mais ils l'avaient compris avec la Saturn et ils l'ont mis en place avec la Dreamcast. Et sur la Dreamcast, il y avait pratiquement la plupart des jeux qui étaient traduits en 5 langues dès le développement du jeu au Japon, avec une 50-60 Hz. Donc, ce côté international, ils étaient novateurs, hein. Encore une fois, ces gars innovaient, mais ils ont rarement récolté, en fait, le fruit de leur innovation.
Et quand tu posais la question de ces jeux donc qui étaient exclusifs à l'archipel que tu voyais passer en tant que journaliste, quand tu posais la question à Sega France, quand est-ce qu'ils allaient sortir? Qu'est-ce qu'ils te répondaient? L'attaché de presse disait je vais peut-être poser la question ou bien c'est la traduction passait mal.
Alors, il faut qu'on demande à Sega Europe qui Sega Europe va demander à Sega Japon. Bon. Ok, bon, bah oui, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Et c'est vrai que les Japonais, en fait, ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte depuis que je m'intéresse au Japon, donc depuis fin des années 80, début des années 90, parce que je pense que ma première visite dans une librairie japonaise, c'était en 89 si je me rappelle bien, donc j'avais été abasourdi des magazines japonais qui parlaient d'informatique et de jeux vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que les Japonais sont tout le temps dans cette optique, ce qui sort au Japon ne peut pas intéresser l'Occident, on est trop différent d'eux. Et résultat, ils passent à côté des pépites incroyables. Demandez ça à n'importe qui travaille dans l'industrie du manga, et toi qui a fait beaucoup de BD, tu vois, les Japonais, ils ont mis 20 ans pour se rendre compte qu'en fait, les mangas, ça peut être apprécié par d'autres personnes non japonaises. Et à chaque fois qu'on leur disait, ils faisaient les gros yeux en disant « Non, c'est pas possible, vous allez pas pouvoir comprendre ce qu'on raconte dans nos mangas. » Et pour les jeux, c'était pareil. Moi, je me rappelle beaucoup quand j'étais journaliste à Tilt et à Console Plus, où on disait par exemple à Nintendo France « Vous savez, les RPG, ça marche, ça pourrait marcher en France. » Et là, ils étaient là « Non, les joueurs en France, ils aiment pas les RPG, non, c'est pas possible. » Et tout ça, c'était un peu une excuse pour pas les traduire, parce qu'effectivement, une localisation, ça coûte cher.
Surtout les RPG où il y a beaucoup de textes.
Exactement.
Sur l'histoire d'importer certaines licences, Dominique Véré, qui donc avait fondé Akata, mais avant ça c'était occupé de Tonkam, avait monté les éditions Tonkam, me racontait comment il arrivait à négocier avec les entreprises japonaises. C'était pas triste.
Oui.
Mais j'ai très vite compris qu'il fallait prendre contact avec une boîte 2 ans avant d'essayer de négocier quoi que ce soit.
Oui, il y a une relation de confiance qu'il faut s'instaurer. Parce que en fait, le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de travailler comme en Occident, où on va contacter une boîte comme ça directement. Au Japon, ça marche beaucoup par captation sur une boîte qui présente une boîte à une autre. Voilà, et ils avaient vraiment beaucoup de mal
Oui,
avec l'Occident.
c'est quelque chose d'assez bluffant. On entame la troisième partie, sinon on va raconter nos histoires de vieux cons. Mais c'est un bonus pour le podcast quand même. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Douglas Alves, historien et conseiller pour l'association MO5 pour parler de la saga Sega. Et je peux vous dire que si vous nous écoutez sur la radio, donc en diffusion directe, en FM, en DAB+, ou en stream, même sur le podcast juste de l'émission, vous manquez beaucoup de choses. L'intégrale sera sur la page web de l'émission cpu.pm/0139 parce que vraiment, on s'en dit des choses. Le 9 septembre 1999, la Dreamcast, la console qui fut la course en avant sur la technique, encore plus que la Saturn. Est-ce qu'elle avait une chance de sauver les meubles pour ces gars?
Oui. Oui, elle avait une chance. Alors, il y a effectivement des erreurs qui ont été faites. Alors, le 9 septembre 1999, c'est la date de sortie américaine. Elle est sortie en 98 au Japon. Non, mais elle est importante, celle-là. Elle est mise souvent en avant parce que ça fait 9-9-1999. Effectivement, et puis la console s'est bien vendue. Elle a fait un super démarrage aux États-Unis. Au Japon, elle est sortie en fin d'année. Elle a eu un démarrage très correct, mais ils avaient des problèmes de production. Mais bon, ils ont un des seuls jeux au départ avec la console qui avait séduit les Japonais, c'était surtout Virtua Fighter. Un peu d'ailleurs comme sur la Saturn, hein, qui est un gros hit de jeux de combat au Japon, mais qui est très discret en Europe. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Virtua Fighter parce que AM2, ça c'est un peu le studio interne de Sega qui le faisait. C'est un peu éparpillé, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Est-ce que la Dreamcast aurait pu marcher? Elle a raté de peu hein, sa survie. Moi, on m'a dit, voilà, des gens de l'industrie du jeu vidéo m'ont murmuré que Sega avait un objectif de 3 jeux vendus par console et ils sont arrivés à 2,7. Ils ont raté de très peu.
Ouais, mais l'objectif de 3 jeux vendus pour amortir la console, si je me trompe, c'était aussi le même pour la PS2, pour la PS3, pour la Xbox. C'était à peu près ce niveau, c'était le niveau industriel.
Oui, certainement. Et la Dreamcast, alors, au niveau conception, c'est vraiment une PlayStation 1. C'est-à-dire qu'elle est très très simple à programmer. Hein. C'est l'environnement de travail, les librairies. Alors, à l'époque, moi qui étais journaliste, j'étais allé voir des studios de développement. Les gens sur Dreamcast, tous les programmes fournis dans le kit de dev marchaient, c'était super agréable, super simple à programmer. La PS2, quand elle est arrivée, les démos qui étaient dans le kit de développement faisaient des erreurs à la compilation.
Oui, j'ai cru entendre qu'il y avait des histoires de mec moi fou.
Ah oui, non, mais c'était complètement incroyable. Donc, la Dreamcast était super simple à programmer, était assez, assez puissante, beaucoup plus à l'aide du programmeur. Que la PS2, il fallait tout faire. Mais les erreurs pour moi, hein, avec mon analyse, les erreurs principales de Sega, et ça, c'est encore une fois leur défaut d'être trop en avance, c'est qu'ils ont parié sur l'online.
Il y avait un modem intégré.
Il y avait un modem, voilà. Même si l'online marchait vraiment de façon mais plus que correcte. Hein. Moi, j'ai le jour où j'ai joué à Alien Front Online sur Dreamcast, où je jouais avec 3 autres joueurs, si je me rappelle bien, et que je parlais simultanément dans le micro de la Dreamcast, mais j'étais là, mais c'est l'avenir, c'est que comment ils font pour passer la voix et en même temps garder un jeu synchronisé en online? C'est incroyable, la techno.
Sur un modem téléphonique.
Oui, sur un modem RTC 33K, il y en a certains qui étaient à 56K, mais en gros, voilà, hein, globalement, c'était complètement incroyable. Hein. Mais pour moi, c'est une erreur. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'ils auraient dû se méfier de Sony beaucoup plus et se dire, bon, bah, le online, on abandonne. Par contre, on va mettre un lecteur DVD dans notre Dreamcast. Et là, ils auraient grillé Sony comme ils avaient grillé Nintendo.
Ouais, enfin, si la sortie commerciale, première sortie commerciale de la Dreamcast était en 98, effectivement, donc ils avaient ce format un petit peu particulier, le GD-ROM qui allait dans le sens inverse des CD pour éviter de se faire
Oui.
de se faire copier format... par le premier copieur PC venu. Mais à l'époque, le DVD, il y avait beaucoup de gens qui se posaient des questions. Il y en a qui étaient restés sur l'échec du vidéo CD.
Oui, oui, tout à fait. Mmh. Mais alors moi, je me rappelle bien, c'est qu'à l'époque, je m'achète une carte sur mon PC pour décompresser les DVD. Mmh. J'achète un lecteur DVD. À la sortie de la Dreamcast, je trouve ça louche de pas être allé sur le DVD, de proposer un format propriétaire. À l'époque, j'avais pas pensé tout de suite parce que j'avais pas vu arriver Sony. Mais effectivement, quand j'ai vu Sony arriver et que la première semaine de vente, ils ont fait 780 000 unités vendues. Mais en fait, c'est avec un catalogue vraiment à part Ridge Racer, il y avait vraiment rien. Hein. C'est pas avec Fantavision qu'on pouvait vendre une console. Et en fait, après les interviews auprès des premiers acheteurs, les premiers acheteurs nous disaient tous bah, nous, on l'a acheté parce que on était intéressé par un lecteur DVD.
C'était le moins cher du marché aussi. Hein.
En plus, ça nous permet de jouer au jeu PlayStation 1 dessus. Mmh. Et d'ailleurs, Sony l'a utilisé, ça, comme argument. C'est, s'il n'y a pas de jeu PS2, c'est pas grave. Il y a encore plein de jeux PS1 à jouer.
Oui, je m'en souviens. Et je me souviens aussi des lancements de la PS2, mais ça, c'est une autre histoire.
Et donc, pour moi, ces gars, ils ont fait ce choix du online et ils auraient dû faire le choix du DVD. Mmh. Bien sûr, ça leur a coûté un peu plus cher. Globalement, on avait évalué une puce de décompression plus le lecteur DVD, bah, moins le modem, ça aurait peut-être rendu la console peut-être 25 ou 50 euros plus cher. Enfin voilà, c'est vrai que après c'est une stratégie industrielle. Mmh. Mais pour moi, ils auraient pu en proposant une console moins chère que la PS2 et avec le lecteur DVD en plus dessus, je pense qu'ils auraient séduit pas mal de personnes. De la même façon, en tout cas, l'impact de la PlayStation 2 aurait été moins grand. Mm. Et puis après, peut-être l'autre défaut, mais au niveau éditorial, c'est peut-être le manque de jeux de sport Electronic Arts pour les USA. Mais ça, Sega avait leur stratégie avec leur studio interne Visual Concept pour les jeux de sport. Au Japon, le fait de ne pas avoir de gros RPG sur la Dreamcast, d'avoir cette image arcade, action, ça a joué contre eux, forcément, pour pouvoir vendre à grande échelle. Et Shenmue, malheureusement, n'a pas séduit les Japonais, parce que c'était un jeu qui était trop libre, trop dans la simulation. Ça, Yu Suzuki était plus dans une approche occidentale, parce que c'est les prémices, en fait, finalement, des jeux comme GTA, où on est en open world, sandbox, où on passe son temps à faire plein de choses qui sont pas utiles à la progression dans le jeu. Et ça, il était novateur, mais pour les Japonais, c'est pour beaucoup de Japonais, c'est un jeu de daube, hein, Shenmue, hein, le premier. Rétrospectivement, ça fait un peu un trop de jeu. C'est-à-dire, quand on finit le premier, en fait, on sait ce que c'est un Shenmue, et l'aventure passionnante, elle commence pratiquement vraiment au début du 2. Mais il faut avoir fini le premier pour le comprendre. Donc, c'est vrai qu'au niveau éditorial, il y a eu des défauts quand même pour la Dreamcast. Il y a manqué un certain type de jeu, je pense. Ça a manqué. Et je pense qu'au niveau du...
Honnêtement, ouais. Tu oublies un truc. Ouais. La manette. Ouais. J'ai jamais compris la manette de la Dreamcast. Elle est grosse, elle est épaisse, elle a une carte mémoire en plus qui va avec, que je n'ai jamais compris, avec ce câble qui va vers toi. Donc forcément, tu l'as cassé. Oui. Honnêtement, je crois que j'ai jamais vu une manette aussi mal pensée. Par rapport au début des années 90, ça tient quand même de l'exploit.
Et d'ailleurs, le petit câble, il y avait un moyen en fait de le replier pour qu'il parte vers l'avant.
Ils avaient fait un ergo.
C'est ça. Mais c'est vrai que moi, en fait, ce que je reproche beaucoup au pad, mais le pad peut être agréable pour certains types de jeux. Ils n'ont pas pensé à quelque chose d'assez fondamental. C'est les deux sticks pour la 3D. Un pour la caméra, un pour le déplacement. Et ça, je pense que c'est une très très grosse erreur au niveau du pad. Que n'a pas fait Sony.
C'est eux qui avaient inventé le double stick analogique à côté de la croix.
Ils ne sont pas les premiers dans l'analogique, mais effectivement, le double stick qui ressemble un peu au contrôle d'un tank. D'ailleurs, c'est assez incroyable parce que je pense qu'ils ont beaucoup regardé les jeux Sega pour faire la PlayStation à l'époque. Ken Kutaragi allait en arcade regarder Virtua Fighter, Virtua Racing. Et ce qui est assez dingue, c'est que ce principe en fait de double stick, il vient de l'arcade. Mais pourquoi Sega ne l'a pas mis dans leur console? Pourquoi ils ont laissé Sony le faire? Parfois, il y a des choses qui sont incompréhensibles. C'est le gameplay de Virtual On, c'est le gameplay de Cyber Sleed, de Namco. Enfin voilà, c'était des jeux qui étaient extrêmement à la mode à l'époque. Et donc, il suffisait juste de prendre la même logique et de dupliquer sur le pad de la Dreamcast et ça aurait été parfait. Il y a un développeur très, très connu français qui m'a dit qu'il en avait parlé à Sega à l'époque et que le responsable de Sega lui avait dit non, non, mais de toute façon, c'est moi qui décide. Ok, tout va bien, mais bon, voilà, c'est dommage, vraiment dommage.
La couche que peu de gens connaissent justement sur la Dreamcast et pourtant elle est sérigraphiée sur le côté, c'est Microsoft avec le système d'exploitation Windows CE, donc un Windows qui est prévu pour de l'embarquer. C'était accessoire puisque les développeurs pouvaient choisir de développer avec Windows CE ou avec leur propre OS ou un OS fourni par un tiers. Microsoft, finalement, c'était le loup dans la bergerie, puisqu'ils en ont profité pour sortir leur Xbox après, avec toute l'expérience qu'ils ont acquise avec Sega.
C'est effectivement assez difficile de voir quelle a été l'implication de Microsoft auprès de Sega. Moi, c'est vrai que j'ai jamais trop eu des informations inside sur cet aspect-là. Moi, je sais que ça venait en grande partie du grand patron de CSK, Okawa, qui était dans l'informatique et qui détenait une grande partie de Sega et qui il avait plusieurs fois soutenu ce rapprochement entre Sega et Microsoft. Globalement, au niveau de la stratégie, est-ce que c'était peut-être pour séduire des développeurs occidentaux qui s'étaient dit on va avoir une console qui va peut-être être plus simple à programmer. D'ailleurs, le PowerVR, le GPU de la Dreamcast, était sorti en carte PC. Hein. Moi, je jouais par exemple avec Unreal Tournament avec. Voilà,
Ah ouais.
à l'époque, il y avait Namco qui avait développé un Ridge Racer sur PowerVR aussi. À l'époque, voilà, il y avait Callisto, le studio bordelais, qui aussi avait commencé à travailler sur PowerVR. Bon, le PowerVR a jamais percé dans le monde du PC, mais en tout cas, il y avait une connexion avec le monde du PC, avec la Dreamcast, qui était peut-être là pour rassurer les développeurs, pour leur dire bon, puisque Windows CE, c'est l'ancêtre en fait du Windows Mobile de tous les qui sont sortis par la suite. Et c'est vrai que peut-être que pour un développeur, se dire qu'il peut utiliser les outils de connexion online, par exemple, sur la Dreamcast et qu'il n'a pas besoin de tout reprogrammer from scratch comme sur les consoles d'avant, peut-être que c'était rassurant. Mais c'est une question qui demanderait vraiment une analyse, qui demanderait que effectivement j'enquête un peu plus sur le sujet spécifiquement.
Sega sort avec la Dreamcast, des jeux complètement barrés comme Space Channel 5 ou Res par Tetsuya Mizuguchi. Il y a une écurie interne de développement qui est totalement débridée. Oh, mauvais jeu de mots. Je vais dire plutôt en roue libre. Ou
Ah,
qui ne sait pas sur quel pied danser ou qui a peut-être un tempo d'avenir.
je te remercie de poser cette question.
Parce que Space Channel 5, quand même, c'est un jeu de danse qui avec des extraterrestres où on doit danser pour essayer de les parasiter. Res, c'est un jeu de synesthésie, enfin un jeu de shoot en synesthésie avec une musique, une bande son absolument démentielle. Et d'ailleurs, les filles aimaient beaucoup d'ailleurs l'accessoire pour faire jouer des basses avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés trop loin. En même temps, c'est super. C'est super d'avoir sorti ces jeux-là.
je te remercie encore d'avoir posé la question
J'ai
pour
que
le
des
coup.
bonnes questions.
Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle peu. C'est que à l'époque, il y a eu une réorganisation interne chez Sega où il y avait des sortes de studios, de regroupements de créateurs de jeux où on avait les AM, voilà, pour l'arcade, et on avait les CS, voilà, Consumer Software, pour les consoles et éventuellement les micros. Et à cette époque-là, on a donné plus d'autonomie. C'est devenu des petites sociétés, donc autonomes, mais possédées en grande partie par Sega. Et à cette époque-là, au niveau éditorial, on a, comment on pourrait dire ça, on a donné la totale liberté en fait aux équipes de développement de faire ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est assez étonnant pour une boîte japonaise. On leur a dit, bah, écoutez, vous savez, ça, c'est notre dernière chance. On peut pas se permettre
On gomme,
d'échouer sur cette console-là.
on vous gomme les N plus 2 à N plus 6, allez-y.
Voilà. Et faites ce que vous voulez. Soyez innovateurs et faites ce que vous voulez. Et là, c'est assez incroyable ces années-là, chez Sega. Les jeux produits pendant cette période-là sont complètement incroyables. C'est des innovations de partout. Ils ont vraiment tout lâché à cette époque-là. C'est assez incroyable. Hein. Bah, Tetsuya Mizuguchi sur Rez, il racontait qu'à l'époque, il bossait sur Rez. Si je me rappelle bien, c'est soit l'inverse, excusez-moi d'avoir une mémoire qui flanche un peu, mais il bossait la journée sur Rez, le soir sur Space Channel.
Oui, ça, il le dit dans une interview dont on va mettre les liens sur la page de l'émission. Ouais.
Il dormait 4-5 heures, enfin ils étaient complètement à fond dedans. Mais on parle beaucoup de crunch effectivement dans l'industrie du jeu vidéo, mais là c'était, disons qu'on était dans une époque où ils le faisaient aussi parce qu'ils avaient envie de le faire. Ils voulaient faire les jeux auxquels ils rêvaient et ils étaient à fond dedans et ils voulaient que ça marche. Et c'est vrai que le catalogue de la Dreamcast, tout le monde, c'est assez marrant parce que beaucoup de personnes qui ont acheté des Dreamcast après l'annonce de l'arrêt de la Dreamcast ont déclaré, ont dit sur les forums et autres, et on retrouve tout le temps les mêmes gens, enfin les gens qui le disent de cette manière, ils se disent, ah ben c'est dommage qu'on l'ait pas acheté avant parce que les jeux sont vraiment géniaux dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Dreamcast en fait est devenue une légende après sa sortie, après qu'elle soit arrêtée, c'est que les gens découvraient la Dreamcast en l'achetant à 50 euros pas cher avec quelques jeux, et ils étaient étonnés de la qualité des jeux. Qu'est-ce qui a pas marché à l'époque? C'est peut-être que Sega, au niveau marketing, a pas réussi à montrer, en fait, la qualité de ses jeux, à faire jouer le public, à faire essayer les jeux au public. C'est vraiment, vraiment dommage.
Donc finalement, même pas 2 ans, 3 ans après avoir sorti, c'est quoi? Tu dis 31 janvier 2001 par rapport au 9 septembre 99, c'est 18 mois. 18 mois après sa sortie internationale, Sega abandonnent le hardware game, que leur reste-t-il à part les licences? Encore des jeux originaux sur console, les jeux d'arcade, alors qu'on voit que c'est de plus en plus en fait les cartes mères, c'est plus que du PC avec un slot commun. Qu'est-ce qui reste à Sega? Un film?
Ouais, mais Sega est dans une situation en fait qui est super délicate. Parce qu'avec avec l'arrivée de la 3D sur PC, avec l'arrivée de la PlayStation 2, les jeux d'arcade au niveau purement technique, en Occident, l'arcade est pratiquement morte en gros, hein. Au Japon, ça continue, mais en gros, l'avantage technologique de l'arcade, il est fini. On assiste en fait à la mort technologique de l'arcade en tant que vitrine du jeu vidéo, mais aussi, et ça c'est assez marrant au niveau technologique, la mort progressive des sociétés comme Silicon Graphics, qui étaient spécialisées dans la 3D, parce que aujourd'hui, elles n'auraient pas pu survivre ces sociétés-là, parce que, bah, au fait, aujourd'hui, tout le monde utilise des cartes 3D sur n'importe quelle machine. Forcément, une fois que c'est arrivé dans tous les foyers, pourquoi aller en arcade jouer au même jeu qu'on a chez nous? Pourquoi s'acheter une workstation 3D alors qu'on peut s'acheter la carte pour notre PC? C'est la même problématique. Il y a la production au grand public d'une technologie qui devient tellement énorme, bah, qu'en fait, bah, il y a beaucoup d'acteurs spécialisés qui vont devoir arrêter. Et Sega, ce qui reste vraiment à Sega, parce que Sega a vraiment eu du mal, hein, pendant ces années-là, parce que le jeu d'arcade baisse. Eux, ils n'ont plus de console. Ils ont une fuite de cerveau de gens qui ont été gavés par la fin de la Dreamcast et qui partent. Voilà, par exemple, Yu Suzuki est mis au placard. Il y a beaucoup de gens chez Sega qui se disent, bon, bah, on va aller voir ailleurs. En même temps, c'est l'émergence du mobile, et les consoles portables marchent du feu de Dieu au Japon, et donc beaucoup d'anciens se disent, on va créer des petits studios, faire des jeux à l'ancienne sur ces petites bécanes, ça va être beaucoup plus sympa que le marché global PlayStation 2, Xbox, GameCube. Mais ils vont quand même réussir à survivre, donc en sortant des jeux sur toutes les consoles. D'ailleurs, j'avais été invité par Sony. La première fois que je suis rentré chez Sega Japon, c'était Sony qui m'invite pour me dire, bah, toi qui es fan de Sega, tu vas voir, maintenant on bosse avec eux, ils vont sortir des jeux sur PlayStation 2. Donc on était allé chez Sega pour voir Virtua Fighter et d'autres jeux adaptés sur PS2. Il y avait du Space Channel, si je me rappelle bien aussi. Et donc bon, voilà, ils ont fait leur transition. Et d'ailleurs, certaines personnes en interne le pensaient déjà depuis la période Dreamcast qu'il faudrait qu'ils sortent des jeux sur plus de machines. Mais après, il y avait la fierté aussi d'être une compagnie qui est capable de produire des consoles. Mais c'est vrai que quand en face on a des compagnies qui ont autant de cash que Microsoft qui arrivent, ou Sony, hein, Sony c'est complètement incroyable, hein. L'argent qu'ils avaient derrière pour la sortie d'une console, on passait à une autre taille en fait de compagnie avec Sony que Sega ou Nintendo. Mm. D'ailleurs, NEC en tant que compagnie d'électronique, ils ont complètement raté le coche. Ils auraient pu être Sony à la place de Sony. NEC aurait investi dans la console. Ils auraient sorti une console avec une puce dédiée comme la PlayStation et ils auraient pu avoir le marché.
Tu parles de la PC Engine.
Ah, je parle du fait que la Hudson Soft qui bossait avec NEC, si NEC aurait compris que le marché console en fait deviendrait un marché très grand public fin des années 90, ils auraient peut-être investi un peu plus.
Pour le livre auquel tu as participé, l'histoire de Sonic the Hedgehog, vous êtes allé voir Sega. Moi, j'ai posé la question à Florent Gorge pour savoir quelles étaient les relations en tant qu'historien du jeu vidéo avec donc Nintendo. Il a dit quasiment inexistante. Ils n'ont même pas d'archives. Et si jamais ils approuvaient ma publication, cela poserait beaucoup de problèmes au niveau diplomatique à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur. Est-ce que Sega, de votre côté, a vraiment aidé ? Est-ce qu'ils ouvrent leurs archives ? Est-ce qu'ils acceptent ? Est-ce qu'ils adoubent la publication de livres qui ne viennent pas de chez eux ?
Alors, globalement, je vais répondre à cette question parce que c'est un gros problème pour l'histoire du jeu vidéo et pour les publications, la littérature dédiée à l'histoire du jeu vidéo. C'est que, alors moi, je citerai par exemple Pix & Love.
Éditeur qui est spécialisé dans l'histoire vidéoludique.
Exactement, et qui a édité donc l'histoire de Sonic. Bah, on a travaillé avec Sega pour avoir la validation donc des informations à l'intérieur. Et puis parfois effectivement, on a droit à des archives, à des documents qui ne sont pas publics, qui ne sont pas connus. Mais le désavantage de travailler comme ça, de faire donc un livre qui est validé par un éditeur, c'est que les délais de validation sont extrêmement longs. Quand j'ai tapé mes derniers mots pour l'histoire de Sonic, il s'est passé un an et demi avant que le livre arrive. Le temps de corriger, de que tout soit validé par Sega. Et effectivement, il y a certaines informations qu'on n'a pas pu mettre, qui étaient de l'ordre de la rumeur. Parce que vous vous rendez compte que le livre, s'il est écrit en anglais, il faut le traduire en japonais la plupart du temps pour qu'il valide. S'il est écrit en français, il faut le traduire en anglais, puis en japonais ou en japonais directement. Et qu'ils puissent valider. Et c'est un vrai travail de dingue de faire ça. Pix & Love, pour par exemple l'histoire de la Dreamcast, c'est pareil, hein, ils sont obligés depuis des mois et des mois de valider auprès de Sega Japon. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué de faire des livres officiels. Voilà, c'est plus facile de sortir son livre avec ses propres enquêtes et ses propres source que de faire valider effectivement par des japonais. Tu parlais de Nintendo il y a quelques secondes, mais oui, Nintendo, tu ne peux pas en tant qu'employé Nintendo parler en public. Ça serait en fait porter la parole de Nintendo. Et la parole de Nintendo, elle est contrôlée. Et tu peux pas dire ce que tu veux sur Nintendo, quoi. Ou alors tu te présentes pas comme étant employé Nintendo. Pour le coup, et tu parles d'autre chose, de jardinage ou de cuisine. Voilà. Mais donc tout doit être dans les logs de Nintendo niveau communication. Il faut pas qu'il y ait un seul impair. Chez Sega, c'est un peu plus souple. Ils sont en train de le comprendre, hein, d'ailleurs. Moi, je trouve qu'il y a une sorte d'amélioration. C'est un peu plus détendu chez Sega. Mais quand tu sors quand même un produit dans le public et que tu veux la licence officielle Sega, il faut que ça soit contrôlé.
Douglas Alves, merci infiniment de m'avoir accordé autant de temps, alors que je suis sûr que tu avais des choses beaucoup plus intéressantes, et notamment des jeux à terminer. L'intégralité de cette interview, qui est plus longue que l'émission dans laquelle elle est diffusée, vous pouvez le retrouver sur la page web de l'émission cpu.pm/0139. Et vous retrouverez bien évidemment tous les liens documentaires que l'on aura pu rassembler. Merci infiniment de nous avoir accordé autant de temps. Et bonne journée à toi.
Merci à toi. Merci à toi. Et